Voici venir des jours, parole du Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas une faim de pain ou une soif d'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. C'est dans Amos, au chapitre 8. Prions avant d'ouvrir les Écritures. Éternel, regarde notre monde, notre pays, notre vie, et la famine qui y sévit. Nous avons faim de sens et de paroles vraies, soif de nouvelles naissances et de fidélité. Nous avons faim, Éternel notre Dieu, accueille-nous au festin de ta parole. Nous avons soif, ouvre les écluses de ton esprit. Donne-nous de t'entendre, de te comprendre et de te suivre. Amen. Et le texte du jour est dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Seigneur, ta parole est source de vérité. Parle-nous par ta vérité. Voilà, ce matin, le texte du jour qui est commenté dans toutes les églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes ou partout dans le monde, nous place devant un miracle de Jésus. Et pour une fois, ce n'est pas une guérison. Mais aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas spécifiquement sur ce miracle, ce signe de la multiplication des pains et des poissons. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter plutôt sur l'importance pour les foules, pour les disciples et pour nous, par ricochet, de l'enseignement de Jésus. Parce que dans les évangiles, lorsque Jésus n'opère pas de guérison, lorsqu'il ne fait pas de signes, de miracles, il enseigne. L'étude et l'enseignement représentaient et représentent encore aujourd'hui une place très importante, une dimension importante dans le judaïsme, et là encore par ricochet dans notre christianisme, mais beaucoup moins que dans le judaïsme, et c'est un peu dommage. Et c'est peut-être quelque chose à retrouver. Alors pour nous en tenir à l'évangile selon Marc, que nous lisons maintenant depuis quelques semaines, nous voyons souvent Jésus enseigner dans des lieux très divers et parfois improbables, au bord du lac, sur la plage, à Tibériade, dans la synagogue de Nazareth, dans les villages des environs, en Galilée ou dans le temple à Jérusalem. Il enseigne en chemin, il enseigne sur la montagne. Ses disciples le reconnaissent comme un enseignant, hein, ils l'appellent maître, rabbi, et ils vont après lui l'écouter. La plupart sont très, très à l'écoute de ce qu'il raconte tout le temps, et parfois il passe à côté. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Jésus ne se contente pas d'enseigner lui-même, il a des objectifs pour ses disciples. Au terme d'un très court compagnonnage, il les envoie deux par deux pour enseigner à leur tour tout ce qu'ils ont pu apprendre dans ce si petit parcours, voilà, jusque-là avec Jésus. Il les charge en tout cas de cette mission, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et c'est d'ailleurs immédiatement après avoir répondu à cet appel à aller enseigner que les disciples reçoivent ce titre d'apôtre, apostoloi en grec, ce qui veut dire un appelé. Dans l'évangile selon Marc, c'est la seule fois où on a ce terme d'apôtre qui apparaît, et c'est au début de notre passage au verset 30. Et ce titre d'apôtre n'est pas seulement donné à ceux qui ont vécu dans la proximité de Jésus. Dans la Bible, les 12 ne sont pas les seuls à bénéficier de ce titre. Paul, par exemple, est appelé un apôtre alors qu'il n'a jamais vu Jésus en live. Barnabé aussi, qui le suit dans les Actes des Apôtres, ils ne connaissent pas Jésus. Et par la place que Jésus donne dans son ministère, nous comprenons que l'enseignement est vraiment quelque chose qui a une importance cruciale et fondamentale. Mais pour en saisir l'enjeu, justement, revenons à notre texte et d'abord peut-être un mot sur les besoins de la foule. Beaucoup de gens sont venus vers Jésus, ils ont parcouru de longues distances, sans se soucier de leur confort ni de leur subsistance, et maintenant ils sont loin de chez eux, loin de tout. Ils se trouvent, avec les heures qui passent, dans le besoin, dans la précarité, ils se trouvent dénués de l'essentiel, on pourrait dire. Et bien sûr, ils ne se sont pas fait surprendre, ces gens-là, ils ne sont pas idiots. Quand ils sont partis dans ces lieux déserts, ils ne se sont pas dit « on va trouver un Leclerc, un Carrefour ou une petite épicerie locale où on pourra s'acheter quelque chose pour se dépanner ». Ils savaient tous qu'au bout d'un moment, ils auraient faim. Ils ne se sont pas fait surprendre, ils ont choisi. Ils se sont mis dans cette situation délicate parce qu'ils ont une soif spirituelle tellement intense qu'elle passe avant toute autre chose, avant leur faim physique, leur soif physique. Et c'est un fait, parfois la quête d'absolu peut passer avant les sécurités auxquelles nous sommes habitués. La foule est donc consciente de ses besoins, et ce qui frappe Jésus, ce n'est pas leur faim de pain, qui est une faim éphémère qui va passer, une faim toute passagère, mais c'est leur terrible soif spirituelle qui cherche une source où s'abreuver. C'est ça qui a touché Jésus, c'est ça qui lui a remué les tripes. Je dis ça parce que c'est le texte qui dit ça, ça lui a retourné les entrailles. Alors, je ne sais pas comment il faudrait le traduire dans notre français, mais ça l'a vraiment bouleversé de voir ces foules comme ça. Ensuite, je voudrais dire un petit mot sur les besoins des apôtres et à leur retour de mission. Donc, ils sont partis en mission. Quand ils reviennent, on s'aperçoit qu'ils ont leurs propres besoins, parce que Jésus et ses disciples aussi ont leurs propres besoins. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que pour eux, le moment est venu justement de prendre du recul, de se reposer un peu, loin des gens. Et c'est pour cette raison que Jésus prend une barque et qu'il traverse le lac de Galilée et se rend dans un endroit désert, c'est-à-dire normalement un endroit où ils seront sûrs de ne rencontrer personne. Mais on l'a dit, la soif spirituelle de ces foules est si intense que les gens se dépêchent, ils ont continué à marcher, au point que dans leur impatience, ils arrivent à devancer Jésus et à être là au moment où il arrive. C'est le texte qui nous le dit. Ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux, de sorte qu'en débarquant, Jésus vit une grande foule. Alors pour trouver la tranquillité dans un endroit désert, pour le coup, c'est raté. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai pensé à cette scène, je me suis dit, si ça avait été mon cas, en voyant cette foule de gens complètement amassés sur le bord de la plage, là, j'aurais viré de bord et je serais reparti au milieu du lac pour être vraiment tranquille, pour retrouver la tranquillité. Si c'était parti pour se reposer, J'aurais vu ça comme une grande menace et j'aurais fui avec beaucoup de courage. Eh bien, lui, les événements qui le touchent sont bouleversés, évidemment, puisque ce n'était pas le but, il n'était pas parti pour ça. Les événements ont suivi un cours inattendu, et comme ça peut arriver souvent dans nos propres vies, dans nos propres agendas, dans nos propres plans. Et Jésus, lui, contrairement à moi, ne recule pas. Il y va parce qu'il est pris de cette compassion pour cette soif profonde de la foule. Et là encore, ce n'était pas une surprise pour lui. Le texte dit qu'en accostant, il a découvert la foule, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que forcément, en arrivant, ça prend du temps d'arriver jusqu'au bord, et on voit bien qu'il y a, toute une foule qui attend là. Il n'a pas été surpris, à aucun moment. Il n'a pas été surpris en accostant. Il a su ça avant, mais il a choisi de ne pas reculer, de ne pas virer de bord et de ne pas tracer pour le milieu du lac. Il accepte de changer ses plans et, en même temps, pour le coup, celui des disciples. Tout ça par compassion. Mais aussi parce que c'est son ministère. Jésus est fait pour enseigner. C'est sa raison d'être. Et c'est pour ça que ça passe avant toute autre chose, avant les repos, avant les repas. Et il s'adapte donc à ces circonstances imprévues, il les accepte telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent à lui, sans vouloir absolument et à toute force parvenir à réaliser ses propres objectifs. Il change donc ses projets, il renonce à se mettre à l'écart et il s'occupe des foules. Et ici nous voyons que sa compassion dans un premier temps ne le conduit pas à guérir des malades ou à donner à manger, comme c'est souvent le cas à d'autres moments. Non, sa compassion le conduit à enseigner ces foules qui sont venues animées de cette tellement grande attente en eux. Pour enseigner les foules, Jésus se met provisoirement de côté, il met de côté son désir de se mettre à l'écart, lui et ses disciples, et de se reposer, parce qu'il considère ce besoin d'enseignement comme aussi impérieux et profond que peuvent l'être le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de se reposer, de dormir, le besoin de guérison. Et c'est bien pour ça, c'est bien pour être enseigné que ces gens sont venus jusqu'à lui, et ils n'ont pas cherché, quand ils sont venus, à recevoir des guérisons, ils ne sont pas venus pour chercher du pain, ce n'est pas un boulanger. Pour eux, la connaissance profonde des biens spirituels prime sur la jouissance immédiate des biens matériels. Jésus a compris que ces gens attendaient ça de lui et ça l'a réjoui. Il approuve leur désir sans aucune réserve et ce n'est que pour les disciples que ça va devenir un problème, on peut s'en douter, parce qu'eux-mêmes ont besoin de manger, ils ont la dalle, ils sont là, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se restaurer. Et donc ils vont voir Jésus, ils lui disent « Bon, maître, il est tard, ces gens-là ont super faim, il faut maintenant les renvoyer dans les villages pour qu'ils puissent manger. » Mais on entend bien en point de suspension, c'est nous qui avons faim, c'est nous qui avons besoin de nous reposer, et ça n'échappe pas à Jésus. Et il est fort à parier d'ailleurs que si Marc associe comme ça la parole, l'enseignement avec le pain et la nourriture, c'est parce qu'il est juif. Dans le judaïsme, c'est une chose absolument évidente. Le Premier Testament ne dit pas autre chose quand il compare souvent l'enseignement à une nourriture. On l'a entendu tout à l'heure dans la lecture du prophète Amos, qu'on a lu en introduction, je peux vous relire, mais ça dit tout à fait ça. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. » Eh bien, c'est cette soif que les foules sont venues chercher auprès de Jésus. C'est avec cette soif qu'ils sont venus le trouver pour essayer de se désaltérer, pour nourrir leur esprit, pour faire grandir leurs pensées, pour nourrir leur âme. En fait, je crois qu'on... Et tous les théologiens ne pensent pas comme ça, mais je crois qu'on est fait corps, âme et esprit, qu'on est tripartite. Le corps, vous savez, on le maîtrise à peu près, on sait ce que c'est depuis des siècles maintenant. On sait s'en occuper au jour le jour, on sait le réparer quand il est dysfonctionnel et on sait de mieux en mieux le réparer. C'est une évidence, le corps. C'est beaucoup moins une évidence l'âme, la psyché. Ces derniers siècles ont fait des progrès en se disant, bon, l'âme est là. La psyché, c'est le domaine en nous de l'intelligence, de la pensée, des souvenirs, du rêve, des émotions. C'est complètement immatériel, et si on dissèque un cadavre, bien sûr, on ne va pas trouver tout ça. Mais depuis quelques siècles, en tout cas, on sait que c'est là. On sait que ça habite l'homme et que c'est en lui. Et l'esprit, c'est cette même partie immatérielle de l'être qui, au lieu d'être tournée vers soi-même ou vers le monde, enfin à l'horizontale, est plutôt tournée vers les choses spirituelles, vers ce qu'on pourrait appeler Dieu, mais en tout cas vers ce qui nous met en connexion les uns avec les autres et en connexion avec l'univers. Et je crois que comme le corps a besoin d'être nourri ou réparé quand il est dysfonctionnel, sous peine de s'atrophier s'il n'est pas nourri au bout d'un moment, l'âme a besoin d'être nourrie, la psyché. La psyché, ce qui a donné un psychothérapeute, vous savez, c'est un guérisseur de l'âme. Et c'est donc cette partie-là qui vient toucher et guérir quand on a des besoins. Et l'âme a besoin d'être nourrie, de « je t'aime », de signes de reconnaissance, de signes de confiance, et c'est comme ça qu'elle se nourrit. Maintenant, l'esprit, donc cette même partie immatérielle de l'être, a aussi besoin d'être nourri, voire réparé quand ça ne va pas, sous peine aussi de s'atrophier. Et Jésus est toujours du côté de ceux qui reconnaissent en eux une soif spirituelle. Et il désire d'ailleurs la satisfaire, toujours. Alors en nous, peut-être que nous, si nous sommes là le dimanche matin, d'une manière générale, que nous vivons dans une société qui pourtant nous dit que l'importance n'est pas le spirituel, mais c'est plutôt de s'inquiéter du matériel en permanence, et que nous prenons du temps pour venir, pour arriver là, pour traverser l'ombre, pour repartir, eh bien c'est peut-être que nous avons la même préoccupation que ces gens qui ont suivi Jésus jusqu'au bout du lac. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, sachons peut-être dans nos vies prendre le temps du recul, du silence intérieur nécessaire pour reconnaître cette soif spirituelle dans notre être. Parce que ce n'est pas évident à la reconnaître. Ce n'est pas évident de découvrir cette partie qui nous échappe tellement, cet esprit en nous. Pour savoir discerner cette soif en nous, cette faim d'enseignement, pour grandir, changer, évoluer, pour devenir meilleur, vers le meilleur de nous-mêmes, pouvoir se propulser comme ça. Alors soyons donc assurés que Jésus, le Christ, le Messie, par les paroles qu'il nous laisse dans les évangiles et par l'action de l'Esprit qui nous donne de mettre du sens dans ces paroles que nous entendons, souhaite encore aujourd'hui et demain étancher notre soif. Notre soif spirituelle, notre soif de grandir en lui. Et en voilà un beau message pour un jour de baptême, en te souhaitant, Charles, et pour nous tous aussi, qu'il saura toujours nous inspirer, nous nourrir, nourrir nos réflexions, afin d'éclairer nos pas, nos choix, notre foi. Amen.